Moby Dick.
Adapté au cinéma par John Huston.
On donne des noms à des baleines ?
Ouais, les plus grosses baleines, les plus meurtrières ont toute leur histoire. Des baleines qui ont tué des centaines d'hommes, parfois. Et la plus énorme des baleines, c'est Moby Dick.
Une baleine blanche à Diacab, ça existe ? Une baleine peut être blanche ?
Elle est blanche, plus blanche que toutes les neiges qui soient jamais tombées.
Ça peut pas faire de mal.
Et partout où elle nage, partout les oiseaux blancs escortent la baleine. Des oiseaux blancs comme des anges.
Ouais. Beaucoup d'entre nous ont voulu chasser Moby Dick et ils l'ont touché au vif. Ils n'ont connu que sa vengeance. Même beaucoup prétendent l'avoir tué. Mais toujours après ça, elle est réapparue. Énorme, mystérieuse.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Immortelle, à ce qui paraît.
Ça peut pas faire de mal.
Je m'appelle Ismaël. Il y a quelques années, sans préciser davantage, n'ayant plus d'argent ou presque rien de particulier à faire à terre, l'envie me prit de naviguer encore un peu et de revoir le monde de l'eau. C'est ma façon à moi de chasser le cafard et de me purger le sang. Quand je me sens des plis amers autour de la bouche, quand mon âme est un bruineux et dégoulinant novembre, quand je me surprends arrêté devant une boutique de pompes funèbres ou suivant chaque enterrement que je rencontre, et surtout lorsque mon cafard prend tellement le dessus que je dois me tenir à quatre pour ne pas délibérément descendre dans la rue pour y envoyer dinguer les chapeaux des gens, je comprends alors qu'il est grand temps de prendre le large. Ça remplace pour moi le suicide. Avec un grand geste, le philosophe Caton se jette sur son épée. Moi, tout bonnement, je prends le bateau. Rien de surprenant à ça. Chaque homme, à quelques périodes de sa vie, a eu la même soif d'océan que moi. C'était un extrait du chapitre 1er de Moby Dick, le célèbre roman d'Herman Melville. Moby Dick est une baleine blanche, un monstre marin insaisissable qu'un homme, un seul, veut absolument capturer. Il s'appelle Ahab, et c'est le capitaine du Pequod, un vaisseau magistral qui traverse les mers du globe à la recherche de l'animal. Sombre et tyrannique, Ahab est prêt à tout pour se venger de la bête qui lui a coupé la jambe. Parmi son équipage se trouve Ishmael, un vagabond qui n'a qu'un seul désir, fuir la société des hommes et se perdre dans l'immensité des océans. En s'engageant sur le baleinier, ce héros mélancolique ne va pas seulement découvrir les techniques de la chasse, il fera aussi l'expérience de l'amitié, de l'attente et de la mort. Ce soir, découvrons sans plus attendre ce roman prodigieux qui mêle la fiction au récit scientifique. Son auteur, l'Américain Melville, fut lui-même un grand voyageur qui a passé de longues années en pleine mer. Et pour écrire cette histoire, il s'est non seulement inspiré de sa propre expérience de marin, mais aussi d'un fait divers survenu en 1839. Une baleine blanche aurait fait sombrer tout un équipage en plein Pacifique, ne laissant aucun survivant. Romancier, mais aussi poète et essayiste, il ne s'est jamais remis de l'écriture de Moby Dick. Après la publication du livre en 1851 et son échec public et critique, l'écrivain s'isole, abattu. Il meurt 40 ans plus tard, dans l'indifférence générale.
Baleine en vue ! Baleine en vue ! Par sa mère, tribord !
L'action débute dans les années 1840, sur la côte est des États-Unis. Ishmael vient d'arriver à New Bedford, aux environs de Boston. Il veut trouver une place sur un bateau. Il tente donc de rentrer en contact avec les habitants de cette ville, en se rendant notamment à la chapelle des baleiniers où se côtoient tous les marins. Il s'installe à l'intérieur, remarquant que les murs de la petite église sont recouverts de plaques à la mémoire des disparus en mer. Soudain entre le père Maipo, qui se hisse sur le prétoire afin de prononcer son sermon. Nous sommes au chapitre 9 du roman. Au milieu d'un auditoire médusé, Ishmael écoute la voix de cet homme qui relate l'histoire de Jonas, avalé par un gros poisson parce qu'il désobéissait à Dieu. Un mythe présent à l'esprit de tous les chasseurs de baleines présents dans la salle et qui vont bientôt reprendre le large. Quel genre de leçon nous donne le livre de Jonas ? C'est une leçon pour nous tous, car c'est une histoire de péché, de dureté de cœur, de terreur subitement réveillée, de châtiment tardif, de repentir et de prière. Comme il en va de la plupart des pécheurs, le péché de ce fils d'Amittai, c'est qu'il voulait désobéir au commandement de Dieu. Jonas, en son fort intérieur, raille Dieu et essaie de se passer de lui. Il s'imagine qu'un bateau fait de main d'homme peut le porter en des lieux où Dieu ne règne pas. Après bien des recherches secrètes, il finit par dénicher un navire prêt à partir pour Tarchiche. Les hommes du bord ont tout de suite l'intuition qu'il n'a pas l'âme tranquille, et le capitaine était un de ceux-là dont le flair dépiste le crime n'importe où. Et voici qu'un orage terrible se lève et le bateau menace de se briser. Les marins tirent au sort pour savoir à cause de qui cette grande tempête est sur eux. Et les dés désignent Jonas. Ils l'assaillent de questions et Jonas répond en criant « Je suis hébreu, je crains le Seigneur, Dieu du ciel qui a créé la mer et la terre. » Crains-le, Jonas, oui. À cette heure, tu peux le craindre et comme il faut. Alors il fait une confession plénière que les marins écoutent de plus en plus effrayés, mais aussi tous remplis de compassion. Car lorsque Jonas leur crie de le jeter à la mer, car c'est à cause de lui qu'ils sont en péril, ils en ont pitié. Ils cherchent s'il n'y a pas un autre moyen de sauver leur bateau, mais c'est en vain. L'orage indigné hurle de plus belle. Alors, levant une main pour invoquer Dieu, non sans répugnance, il porte l'autre sur Jonas. Considérez maintenant Jonas pris comme une ancre et jeté à la mer. Immédiatement, un calme huileux se fait vers l'est. La mer se tranquillise. Jonas emporte l'orage avec lui. S'éloignant de l'accalmie, il descend dans un tourbillon avec une telle vitesse qu'il s'aperçoit à peine qu'il tombe dans la gueule béante qui l'attend. Dès qu'il y est, la baleine fait claquer ses dents d'ivoire comme autant de verrous blancs sur sa prison. Alors Jonas, du ventre du poisson, pria Dieu. Constatez que, tout pécheur qu'il est, il ne pleure ni ne gémit vers sa délivrance. Il sait que la punition est juste. Et voici, camarade, le seul véritable, le seul authentique repentir. Celui qui ne hausse pas la voix pour se faire pardonner, mais celui qui est reconnaissant d'être puni. Et je vous cite Jonas, afin qu'il serve d'exemple. Tandis que le père Maple parlait ainsi, les bruits terribles de l'ouragan au dehors semblaient souligner ses paroles. Et quand il décrivit l'orage en mer, il semblait lui-même emporté par l'orage. « Jamais Jonas n'atteignit Tarchiche. Comme nous l'avons vu, Dieu l'entraîna dans ses tourbillons les plus rapides, dans les gouffres du destin au milieu des mers. Mais même à cet instant, et hors d'atteinte d'aucune sonde, du cœur des enfers, des plus grandes et des plus froides profondeurs de l'océan, même à ce moment-là, Dieu entendit son prophète englouti et repentant, l'appelant par son nom. Et Dieu parla au poisson, et du fin fond du froid et des profondeurs noires, la baleine remonta vers les agréments du soleil et vers les délices de l'air et de la terre, et elle vomit Jonas sur la terre sèche. Et Jonas, tout meurtri et abattu, obéit aux ordres de Dieu. Et quels étaient ses ordres, camarades ? L'ordre de prêcher sa vérité à la face même du mensonge. Voilà. C'était ça. Si tous les marins vont à la même chapelle, la majorité d'entre eux logent aussi dans la même auberge. Le lieu en question est connu sous le nom du « Jet de la baleine » et Ishmael y partage une chambre avec un individu énigmatique et un peu effrayant. Il s'appelle Kikweg. Il est harponneur. Il a la peau sombre et recouverte de tatouages et ne se déplace jamais sans sa hache. Finalement, les deux hommes s'apprivoisent peu à peu. Un jour, Ishmael rentre dans la chambre et trouve Kikweg en train de feuilleter un livre, incapable de le déchiffrer. Bien décidé à l'aider, il va devenir son ami. Extrait du chapitre 10, Le copain. Je regardais Kikweg avec beaucoup d'intérêt. Tout sauvage qu'il était, et avec cette figure hideusement abîmée, de lui se dégageait quand même quelque chose de pas du tout déplaisant. À travers tous ces affreux tatouages, je crus sentir la présence d'un cœur simple et honnête, et dans ses grands yeux profonds, la promesse d'un esprit pouvant défier mille diables. Il avait l'air d'un homme n'ayant jamais fait de courbette devant personne, et ne devant rien à personne. Il y avait aussi que, sa tête étant rasée, son front se montrait plus libre et d'un relief plus expressif et net qu'il ne l'aurait fait autrement. Tandis que je l'observais ainsi, tout en faisant mine de regarder l'orage par la fenêtre, lui ne faisait aucunement attention à ma présence. Il ne m'accorda même pas un seul regard. Il avait l'air entièrement occupé à compter les pages de ce livre merveilleux. Il était là, et son indifférence même me parlait, d'une nature dans laquelle n'existait aucune hypocrisie civilisée, aucune douceâtre déception. Il était farouche. Un vrai spectacle dans le spectacle. J'approchai mon banc et à l'aide de quelques signes et paroles amicales, j'essayai de converser avec lui. D'abord, il fit à peine attention à mes avances, mais bientôt, lorsque je le rappelais son hospitalité de la nuit précédente, il s'enhardit jusqu'à me demander si nous serions encore compagnons de lit. Je lui répondis que oui. Je crois qu'il eut l'air content. Alors, ensemble, nous feuilletâmes le livre et j'essayai de lui expliquer le but de l'imprimerie et la signification des rares gravures qui s'y trouvaient. Vite, ainsi, j'éveillai son intérêt. De là, nous nous mîmes à bavarder de notre mieux au sujet des diverses choses à voir dans cette ville réputée. Bientôt, je lui proposai de fumer une pipe d'amitié, et lui, sortant sa blague et son tomahawk, me les offrit simplement. Et nous restâmes là, à tirer des bouffées de sa pipe sauvage que nous nous passions régulièrement l'un à l'autre. S'il subsistait encore une indifférence glacée à mon endroit dans la poitrine du païen, cette agréable fumerie dut la dégeler rapidement et nous laissa compères. Il semblait m'avoir pris en amitié aussi naturellement et spontanément que je l'avais pris, et quand nous eûmes fini de fumer, il frotta son front contre le mien, me prit la taille, disant que dorénavant, nous étions mariés, signifiant par là, à la mode de son pays, que nous étions de vrais copains et qu'il mourrait pour moi s'il le fallait.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
J'ai vu des matins de joie, de chagrin, de rire et d'envie, de peine et de bonheur dans ma vie. J'ai cru être au bout de l'aventure, mais mon cœur lui me murmure qu'il a tant de rêves à vivre encore.
Encore.
vite, Ishmael fait le tour du port pour trouver une place de marin sur un baleinier. Et un vieux bateau attire son attention. Observant avec admiration sa coque, sa proue et ses ponts, le narrateur est persuadé que ce vaisseau, le Pequod, est celui qu'il lui faut. Il monte à bord et tombe nez à nez avec un marin assez loquace. Chapitre 16. Est-ce le capitaine du Pequod ? Demandai-je, m'avançant vers l'ouverture de la tente.
Et quand ce serait lui, qu'est-ce que tu lui veux ? Répliqua l'homme.
Je voudrais embarquer.
Ah oui ? Oui, tu voudrais embarquer. Tu n'es pas de Nantucket, à ce que je vois. T'es-tu déjà trouvé dans une embarcation éventrée par une baleine ?
Non, sir, jamais.
Tu n'y connais rien, baleine, j'ose dire, hein ?
Rien, sir. Mais je suis sûr d'apprendre vite. J'ai fait plusieurs voyages dans la marine marchande et je crois que...
Au diable, la marine marchande ! Ne me parle pas de cette cochonnerie, à moi surtout. Je suppose que tu n'es pas mal fier d'avoir servi sur un bateau marchand, hein ? Tu vois ce pied ? Il ira rejoindre ton derrière si jamais tu me parles encore de ça.
Mais sacré tonnerre, dis-moi, bonhomme, comment se fait-il que tu veuilles pêcher la baleine, hein ?
Ça m'a l'air un rien louche. Tu n'as jamais été pirate des fois. Tu n'aurais pas barboté ton dernier capitaine, hein ?
Je protestais de mon innocence à toutes ces suppositions. Je devinais que, sous le masque de son ironie, le vieux loup de mer était plein de préjugés de l'insulaire pour les continentaux.
« Mais qu'est-ce qui te pousse à vouloir chasser la baleine ? Je tiens à le savoir avant de t'engager à bord. »«
Eh bien, sœur, je veux savoir ce que c'est tout bonnement. Et je veux voir le monde. »«
Tu veux voir ce que c'est que la chasse à la baleine, hein ?
As-tu donné un coup d'œil au capitaine Ahab ?
Qui est le capitaine Ahab, sœur ?
Ouais, ouais, c'est bien ce que je pensais. Capitaine Ahab est le capitaine d'ici. Alors je me suis trompé, je croyais avoir affaire à lui-même.
Tu parles au capitaine Peleg, voilà à qui tu parles, jeune homme.
C'est moi et le capitaine Bildad qui sommes chargés de parer le Pequod pour le voyage. Et si tu as vraiment envie de savoir ce que c'est que la chasse à la baleine, avant de t'engager définitivement sans plus pouvoir te rétracter, jette un coup d'œil sur le capitaine Ahab et tu verras qu'il n'a plus qu'une jambe.
Que voulez-vous dire par là, sœur ? Est-ce que l'autre, il l'a perdu par la faute d'une baleine ?
Tu l'as dit, jeune homme.
Viens un peu ici.
Oui. Elle a été dévorée, mâchée, pilée par la plus monstrueuse des baleines qui ait jamais amoché un bateau. Ha, ha.
Je fus un peu alarmé par sa violence, peut-être aussi un peu touché par la sincère tristesse de son exclamation finale.
Écoute maintenant, jeune homme. Es-tu déjà allé en mer ? En es-tu bien sûr ?
Sœur, répliquai-je, je croyais vous avoir dit que j'ai fait 4 voyages dans la marchande.
Ah, la ferme avec ça ! Es-tu toujours décidé ?
Oui, sœur.
Très bien. Maintenant, es-tu homme à lancer le harpon dans la gueule d'une baleine vivante et d'y sauter après ?
Vite, réponds.
J'y suis prêt, sœur. Bon, alors marche droit devant et regarde du bord au vent. Après, tu reviendras me dire ce que tu auras vu.
Un peu perplexe, j'hésitais un instant à exécuter cet ordre curieux, ne sachant pas s'il fallait ou non le prendre à la blague, mais les rides plissées des pattes d'oie du capitaine Peleg me poussèrent à obéir. J'allais à la proue et regardais du bord au vent. Je m'aperçus que le bateau chassait sur l'ancre avec la marée et qu'il pointait maintenant en oblique vers le large. L'horizon était sans limite, mais absolument monotone et hostile. On ne pouvait vraiment rien y voir de particulier.
« Alors que dit le rapport ?» me demande Peleg quand je revins vers lui. « Qu'as-tu vu ?»«
Pas grand-chose, » répondis-je, « rien que de l'eau partout sur une considérable étendue d'horizon. »«
Très bien. Et qu'est-ce que tu penses maintenant de voir du pays ? As-tu envie de doubler le Cap Horn pour ne pas voir autre chose que ça ?»
J'étais un peu ahuri, mais je voulais aller à la chasse à la baleine, et j'irai. Pour cela, le Pequod valait n'importe quel autre bateau. Il valait plus même, pensais-je.
Tout ceci, je le dis à Peleg. Me voyant ainsi déterminé, il m'accepta enfin. Le Pequod n'est pas un baleinier comme les autres. Il a une mission très particulière et Ishmael va bientôt la découvrir.
Halte là ! Hé, matelot, vous allez embarquer sur ce navire ?
Juste avant d'embarquer, il fait la connaissance avec son ami Kikwed d'un étrange personnage, une sorte de prophète prénommé Élie, qui les met en garde contre les dangers de l'océan.
Vous avez signé pour le Pequod, pas vrai ? Il n'y avait pas une clause comme quoi vous engagiez vos armes.
Quoi ?
Peut-être que vous n'avez pas d'armes. Vous avez déjà rencontré Ahab, camarade.
Qu'est-ce que tu viens nous baragouiner, matelot ?
On vous a dit comment sa mère l'a mis au monde et qu'elle est morte en le baptisant d'un nom de démon ? On vous a dit comment il a craché dans le Saint-Bénitier en l'église de Valparaiso et ce qu'il lui advint lors de son dernier voyage?
Oui, je sais comment il s'est fait écharper par une baleine. Allez, viens.
Tu connais toute l'histoire, hein? Tu en es sûr? On t'a dit que la baleine l'a marqué aussi bien dans le cœur que dans le corps. On t'a parlé du mal qui lui a miné l'âme.
Ne te laisse pas abuser. Il n'y a rien de plus facile que de faire croire qu'on possède un grand secret à soi tout seul.
Je possède un secret, mon garçon. Un jour, sur l'océan, tu verras la terre, mais il n'y aura pas de terre. Et ce jour-là, Agab ira vers son tombeau, mais il se relèvera dans l'heure qui suivra, ouais. Il se relèvera et fera un signe. Et tous le suivront, sauf un seul.
Mais il s'éloigne vite de cet homme un peu bégayant, ne prêtant pas attention à sa prédiction. Les voilà sur le bateau. À son bord, on y trouve les officiers Starbuck, Stubb et Flask, ainsi que leurs quatre harponneurs, dont fait partie Kikwed. Ishmael n'a pas encore eu l'occasion de rencontrer le capitaine, le redoutable Akab avec sa jambe d'ivoire. Mais un matin, il apparaît. Extrait du chapitre 28.
Hissez les vergues ! Virez !
C'était Noël quand le vaisseau quitta le port. Et nous eûmes pendant quelque temps un mordant froid polaire, bien que nous fissions route vers le sud. Cependant, chaque degré de latitude que nous parcourions, nous laissions derrière nous l'hiver sans merci et son intolérable mauvais temps. Par un de ces matins moins menaçants, mais encore gris et sombres, alors que par bon vent le bateau filait avec une rapidité mélancolique en faisant des sortes de bonds vindicatifs, montant sur le pont à l'appel du quart du matin, je regardai au niveau de la lisse de poupe et je fus pris de tremblements de mauvais augure. La réalité dépassait le pressentiment. Le capitaine Akab était debout sur le gaillard d'arrière. Nul signe d'un mal physique ordinaire ni aucune trace de guérison d'une maladie de ce genre n'apparaissait sur lui. Il avait l'air d'un homme qu'on aurait retiré du bûcher au moment où les flammes avaient pourléché ses membres, sans les avoir consumés toutefois, ni sans avoir touché à sa robustesse de vieillard. Sa haute et large carrure semblait faite de bronze solide coulé dans un moule impeccable, comme le percé de ses lignées. Un mince sillon d'un blanc livide traçait son chemin parmi ses cheveux gris, traversait tout droit à côté de son visage et par le cou disparaissait sous ses vêtements. Cette cicatrice ressemblait à l'entaille verticale que l'on voit parfois sur un tronc d'arbre droit et haut après que la foudre l'a parcouru sans arracher la moindre petite branche, mais le pelant et y traçant une balafre qui le laisse vert et vivant. L'aspect d'Akab et la marque barrant son visage me bouleversèrent si profondément que dans les premiers moments, je remarquai à peine que la raideur hautaine de son attitude provenait en partie de la barbare jambe blanche sur laquelle il s'appuyait. Je savais déjà que cette jambe avait été façonnée en mer dans l'ivoire poli d'une mâchoire de cachalot. Je fus frappé de sa position singulière. De chaque côté du gaillard d'avant, tout près des haubans, dans le plancher, il y avait des trous de tarière d'un demi-pouce environ. Sa jambe d'ivoire s'ajustait. Avec son bras levé, il se tenait au galobant. Son regard était droit, fixé au-delà de la proue sans cesse plongeante du bâtiment. Dans ce regard intrépide et fixe, il y avait une énergie obstinée et une détermination sans faiblesse. Il ne prononçait pas un mot. Ses officiers ne lui adressaient pas non plus la parole, mais par leurs moindres gestes et leurs expressions, ils montraient clairement qu'ils avaient l'impression troublante, sinon pénible, d'être sous le regard d'un maître tourmenté. De plus, le morne Akab se tenait devant eux avec la crucifixion écrite sur sa face et l'indescriptible dignité arrogante de quelque puissant ennemi. Après son apparition surprise, Akab offre un discours tonitruant à son équipage. Il explique à ses marins le but de leur voyage. Ils doivent capturer et tuer Moby Dick, la baleine assassine qui a privé le capitaine de sa jambe. Sa vengeance devient alors celle de tous les hommes du bateau qui boivent à l'unisson et jurent tout haut « Mort à Moby Dick ». Cette fureur qui parcourt tous les esprits n'épargne pas le narrateur Ishmael, transporté corps et âme par cette mission divine. Voici un extrait du chapitre 41. Moi, Ishmael, j'étais un de cet équipage. Mes cris s'étaient joints aux cris des autres. Mon serment s'était soudé au leur. Et plus fort je criais, plus mon serment s'affermissait et plus la peur remplissait mon âme. Un sentiment de sympathie sauvage et mystique était en moi. La haine inassouvie d'Akab semblait être la mienne. Attentive et avide, mes oreilles semblaient recueillir l'histoire de ce monstre meurtrier contre lequel moi et tous les autres, nous avions fait serment de violence et de vengeance. Depuis quelque temps, bien qu'à des intervalles espacés, la baleine blanche solitaire et cachée avait hanté ces mers barbares, fréquentées surtout par les pêcheurs de baleines. Tous ne connaissaient pas son existence. Seul un petit nombre d'entre eux l'avaient effectivement vue de leurs yeux. Moby Dick entraînait avec elle tout un appareil de terreurs invisibles. Son nom seul provoquait une telle panique que très peu de chasseurs, parmi ceux qui l'avaient entendu, consentaient à affronter le péril de sa gueule. Moby Dick avait fauché la jambe d'Akab comme un moissonneur fauche une tige dans un champ. Aucun assassin vénitien ou malais n'aurait pu, semble-t-il, le frapper plus méchamment. Il était assez naturel alors de comprendre pourquoi Akab, depuis cette rencontre presque mortelle, nourrissait une haine furieuse contre cette baleine. Le plus terrible était que dans sa frénésie maniaque, il en arrivait à l'identifier non seulement avec ses souffrances physiques, mais aussi avec ses souffrances morales. La baleine blanche nageait devant lui comme l'incarnation de toutes ces puissances malignes que certains hommes de nature profonde sentent en train de les ronger. Akab, tout mutilé qu'il était, se lançait contre elle. Tout ce qui rend fou et qui tourmente, tout ce qui remue le fond trouble des choses, toute vérité contenant une partie de malice, tout ce qui ébranle les nerfs et embrouille le cerveau, tout ce qui est démoniaque dans la vie et dans la pensée, tout mal était pour ce fou d'Akab visiblement personnifié et devenait affrontable en Moby Dick. Il avait amassé sur la bosse blanche de la baleine la somme de rage et de haine ressentie par toute l'humanité depuis Adam. Et comme si sa poitrine avait été un mortier, il y faisait éclater l'obus de son cœur brûlant. Akab le savait. Il se disait « Mes armes sont humaines, mais le combat que je veux mener est fou. » Il ne pouvait rien y changer. Mordu en dedans et brûlé en dehors, coulé par la lance d'une impitoyable idée fixe, un tel personnage semblait être homme à lancer le fer, à lever son harpon contre la plus effrayante de toutes les brutes. Il est certain qu'avec le secret de sa rage folle, nullement atténuée mais bien close et verrouillée en lui, Akab s'était embarqué pour le présent voyage dans l'unique but, l'absorbant tout entier, de chasser la baleine blanche. À ce moment, si à terre, ses vieux camarades avaient seulement soupçonné la moitié de ce qui se cachait alors en lui, avec quel empressement n'aurait-il pas arraché le vaisseau à cet homme diabolique ? Eux ne pensaient qu'à des croisières profitables dont les bénéfices seraient payables en dollars de l'hôtel de la monnaie. Et lui, seulement à une vengeance audacieuse, implacable et surnaturelle.
C'est le capitaine. C'est Akab.
Akab.
Il se promène la nuit.
C'est étrange.
Il ne sort qu'à la nuit. Toutes les nuits, toujours seul, marcher sans arrêt.
Le soir, seul dans sa cabine, Akab rumine sa haine. Voici son monologue au chapitre 37. Je laisse un sillage blanc et trouble, des os pâles, des joues pâles partout où je vogue. Les vagues jalouses se gonflent pour effacer les marques de mon passage. Qu'elles le fassent. Moi, je suis quand même passé. Là-bas, le front doré du soleil plonge dans le bleu plombé. Il fait un lent plongeon. Il descend. Mon âme monte. Son éternel besoin d'ascension fatigue. Est-elle donc trop lourde, cette couronne que je porte, la couronne de fer de la Lombardie? Pourtant, elle scintille de gemmes. Moi qui la porte, je ne la vois pas briller. Mais obscurément, je sens que ce que je porte est une chose qui confond et qui aveugle. C'est du fer, je le sens, son bord dentelé, m'irritant. Mon cerveau semble battre comme le métal solide. Mon crâne d'acier est d'une sorte qui n'a besoin d'aucun casque dans cette bataille qui martèle le cerveau.
mon front brûle. Oh, autrefois le soleil couchant m'apportait le calme, tout comme le soleil levant m'éprenait noblement. C'est fini maintenant. Cette belle lumière ne m'éclaire pas. Toute beauté est angoisse pour moi, puisque je ne peux jamais en jouir. Doué de haute compréhension, le pouvoir moins haut de m'en réjouir me manque. Je suis damné d'une manière très subtile et méchante. Je suis damné au milieu du paradis. Ce que j'ai osé, je l'ai voulu. Et ce que j'ai voulu, je le ferai. Il me croit fou. Starbuck surtout le croit. Mais je suis démoniaque. Je suis la folie même rendue furieuse. Ma folie est cette folie sauvage qui ne se calme que pour mieux s'étudier et se comprendre. La prophétie disait que je serais démembré. Eh oui, j'ai perdu cette jambe. Maintenant, moi, je prédis que je démembrerai celui qui m'a démembré. Que le prophète et celui qui accomplit les prophéties ne fassent qu'un. C'est plus que ce que vous n'avez jamais été, vous, Dieu, grand. Je me fous de vous tous, vous, divins joueurs de cricket, vous, lutteurs. Je ne dirai pas comme les écoliers à leurs adversaires. Attaque-toi à quelqu'un de ta taille. Ne me frappe pas, non. Vous m'avez renversé. Et je suis de nouveau debout. Mais vous avez couru vous cacher. Sortez de derrière vos sacs de coton. Je n'ai point besoin d'artillerie pour vous atteindre. Venez, Akab vous envoie ses compliments. Me faire fléchir? Mais vous ne pouvez pas faire fléchir sans fléchir vous-même. Le chemin de ma résolution a des rails de fer. Et mon ami court avec des roues creuses. Au-dessus d'insondables gorges, à travers les cœurs arides des montagnes, sous les lits des torrents, sans me tromper, je roule. Rien sur ma voie de fer ne peut m'arrêter, ni obstacle, ni traverse.
Baleine en vue ! Baleine en vue !
La traversée se poursuit et l'équipage du Pequod, tout en chassant le cachalot, recherche désespérément la baleine blanche au milieu d'un océan désert. Parfois, certains marins pensent l'apercevoir dans l'eau, mais ne peuvent dire si c'est vraiment elle ou si leur imagination leur joue des tours. Obsédés par l'animal, ils sont jour et nuit à l'affût du moindre bruit et du moindre mouvement. Nous sommes au chapitre 51, le jet fantôme. Ce fut par une nuit sereine, baignée de clair de lune, quand les vagues déferlaient comme des rouleaux d'argent, qu'un jet argenté fut aperçu très avant, au-delà du bouillonnement blanc de l'étrave. Éclairé de lune, il paraissait céleste. Il semblait quelque dieu sortant des flots, empanaché et scintillant. Fédala fut le premier à le signaler. Chaque fois qu'il faisait clair de lune, c'était son habitude de monter guetter dans la grande lune et de le faire avec autant de précision qu'en plein jour. Et cependant, bien que des troupes de baleines soient vues la nuit, aucun baleinier ne se hasardait à mettre alors les embarcations à la mer. Vous pouvez donc imaginer avec quelle émotion les matelots contemplaient ce vieil oriental perché solitaire dans la mâture, à des heures si étranges, son turban et la lune réunis dans un même ciel. Et quand on entendit sa voix surnaturelle signalant le jet argenté par le clair de lune, tous les matelots qui étaient allongés se mirent sur pied, comme si quelque esprit ailé se fût posé dans les gréements pour héler l'équipage mortel. Elle souffle. Si ça avait été la trompette du jugement dernier, il n'aurait pas tressailli davantage. Traversant le pont à pas rapides et obliques, Akab donna l'ordre de hisser le perroquet et le cacatois, ainsi que chaque bonnette. Mais malgré la vitesse à laquelle filait le navire, et bien que des regards perçants comme des flèches fussent lancés par tous les yeux, on ne revit plus le jet argenté durant cette nuit-là. Et le jet de minuit était presque oublié quand, quelques jours plus tard, à la même heure silencieuse, il fut de nouveau signalé.
C'est elle. Ah oui, c'est elle.
De nouveau, chacun le vit. Mais quand on mit le cap dessus, il disparut encore, comme s'il n'eût jamais existé. Et ainsi fit-il nuit après nuit, jusqu'à ce que personne n'y fît plus attention, sinon pour s'en étonner. Ce jet solitaire, mystérieusement jailli dans le clair de lune ou sous les étoiles selon le cas, disparaissait ensuite pendant un jour entier ou deux, et chaque fois semblait gagner sur nous, comme pour nous attirer plus avant. Avec la superstition immémoriale de leur race, et influencée par l'atmosphère de surnaturel qui, sous bien des rapports, enveloppait le Pequod,
Il y eut plus d'un marin pour jurer que chaque fois et en chaque lieu où le jet avait été aperçu, pour si anciennement que ce soit, dans les latitudes et les longitudes les plus opposées, cela révélait la présence du même cachalot. C'était Moby Dick. Pendant quelque temps régna aussi un sentiment de terreur particulière à l'égard de cette apparition fugitive, comme si elle nous faisait traîtreusement signe de la suivre. Afin que le monstre puisse se retourner sur nous et nous mettre en pièces, en des mers plus lointaines et plus sauvages. Ces appréhensions momentanées, si vagues mais si effrayantes, gâchèrent la puissance merveilleuse de la sérénité du temps, sous la douceur bleue de laquelle se cachait un charme diabolique. Au cours des jours et des jours où nous croisâmes dans ces eaux si péniblement et si solitairement douces.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Ça peut pas faire de mal.
We must end this world like lots of things. To know at last what we like the most. Women, horses, bay trees and roses, sweet ocean game. We must trample underfoot to stop and down flowers. We must often cry, say many goodbyes. And the effect the leaves show that the cozy.
Après des semaines de navigation, le Pequod s'approche du nord de l'Australie. Les marins sont à bout de force. Même le robuste Kikwed tombe gravement malade et demande qu'on lui construise un cercueil au cas où il serait emporté par la fièvre. Mais il tient bon et continue la chasse. À chaque fois qu'ils croisent un autre bateau, les hommes d'Akab demandent si la baleine blanche a été aperçue, sans succès. Jusqu'au jour où l'un d'eux croit l'avoir localisée. Nous sommes à la toute fin du roman, au chapitre 83. La chasse, premier jour. Le vieillard, comme c'était parfois son habitude, sortit de l'écoutille sur laquelle il s'appuyait et s'enfuit à son trou du pivot. Soudain, sa figure prit une expression féroce. Il renifla l'air du large comme l'aurait fait un bon chien de bord aux approches d'une île barbare. Il déclara qu'il devait y avoir une baleine dans les environs. Bientôt, l'odeur spéciale émise parfois à longue distance par le cachalot vivant devint perceptible à tous les hommes de quart. Aucun matelot ne fut surpris lorsqu'après avoir consulté la boussole et le penon, Akab fit rapidement changer la direction du navire et modifier la voilure. « Appelez tout le monde !» Dagour réveilla les dormeurs. Ils apparurent instantanément, semblant jaillir de l'écoutille, leurs vêtements à la main. « Que voyez-vous ? » cria Akab, renversant la tête en arrière pour regarder le ciel. « Rien de rien, sœur !» fut la réponse d'en haut. Les voiles étant toutes établies, le capitaine largua le garde-corps destiné à hisser aux mains et au bout de quelques instants le tirait là-haut quand, aux deux tiers du chemin, alors que son regard perçant scrutait l'horizon dans le vide, il poussa un cri de mouette. « Elle souffle ! Elle souffle ! Une bosse comme une colline de neige, c'est Moby Dick !» Enflammé par le cri repris simultanément par les trois vigies, les hommes du pont se précipitèrent au gréement pour voir la fameuse baleine qu'ils poursuivaient depuis si longtemps. L'animal se voyait maintenant à environ un mille en avant. Chaque soulèvement de la mer révélait sa haute bosse étincelante et elle lançait régulièrement son jet silencieux dans l'air. Bientôt, toutes les embarcations furent mises à la mer. Toutes les rames entrèrent en jeu et les baleinières, celles d'Akab en tête, filèrent rapidement du côté du vent. Une pâle lueur de mort luisait dans les yeux creux de Fedala. Une grimace hideuse tordait sa bouche. Telle de silencieuses coquilles de nautiles, les légères étraves fendaient la mer, mais il leur fallut du temps pour atteindre l'ennemi. À mesure qu'elle en approchait, l'océan se faisait encore plus lisse. Il était comme un pré à midi tant il s'étalait avec sérénité. Enfin, le chasseur haletant fut si près de la proie que sa bosse étincelante apparut tout entière, glissant sur la mer comme une île continuellement sertie dans un cercle tourbillonnant d'écume verte, très fine, comme laineuse. Akab put voir l'immense réseau de rides de la tête. De chaque côté de la baleine s'élevaient des bulles dansantes, mais elles éclataient aussitôt sous des milliers de pattes de beaux oiseaux qui rasaient doucement l'eau, entremêlant leurs vols courbes. Une joie tranquille, la grande douceur du repos dans la vitesse, entourait la baleine nageant. Jupiter, taureau blanc fuyant à la nage avec Europe, ravi, accroché à ses cornes gracieuses, regardant la jeune fille de côté avec ses beaux yeux, tout en filant avec une vitesse enchantée vers la couche nuptiale de Crète, ne surpassait pas en grande et suprême majesté la glorieuse baleine blanche, nageant comme une divinité. Ainsi donc, à travers la sereine tranquillité de la mer tropicale, parmi les vagues qui applaudissaient dans un ravissement extrême, Moby Dick avançait toujours, cachant son terrible corps immergé et la hideur de sa mâchoire tordue. Mais bientôt, la partie cachée de son corps sortit de l'eau. Pendant une seconde, toute cette masse de marbre s'élança comme une arche, pareille au pont naturel de Virginie, puis balançant en signe d'avertissement les bannières de sa queue, le dieu magnifique se révéla, plongea et disparut, planant sur la place. Et frôlant l'eau de leurs ailes, les blancs oiseaux de mer s'attardèrent sur le lac agité qu'ils laissaient. La chasse dure longtemps. Le troisième jour, le combat contre Moby Dick a véritablement lieu. Dans cette lutte acharnée contre une force de la nature, la folie d'Akab n'a plus de limite. Tous les canots sont à l'eau, tous les hommes tiennent leurs lances en espérant ne pas mourir. Ishmael, acteur et témoin de cette opération, repense alors au sermon du père Maple, mais aussi à la prophétie de l'inconnu sur le port auquel il n'avait pas prêté attention.
Un jour sur l'océan, tu verras la terre, mais il n'y aura pas de terre. Et ce jour-là, Akab ira vers son tombeau.
chapitre 85. Akab ordonna qu'on le descende, et regardant toujours autour de lui, il fut descendu doucement jusqu'au pont à travers l'air bleu. Il fit signe à son second et lui ordonna de s'arrêter. « Starbuck, sœur, pour la troisième fois, le vaisseau de mon âme reprend ce voyage, Starbuck. Oui, sœur, tu l'auras voulu. Je suis vieux, Starbuck. » Une poignée de mains, homme. Leurs mains se touchèrent, leurs regards se pénétrèrent. Dans les yeux de Starbuck jaillirent des larmes. « Oh, mon capitaine, noble cœur, n'y allez pas. Voyez, c'est un homme courageux qui pleure dans sa grande angoisse de vouloir vous persuader. À la mer !» cria Akab, repoussant le bras de Starbuck. « Équipage, soyez prêts !»« Les requins ! Les requins !» cria une voix à la fenêtre basse de la cabine. « Oh, mon maître, revenez !» Mais Akab n'entendit rien, car au même moment, il parlait lui-même très fort, et sa barque filait. La voix disait vrai. À peine s'était-il éloigné du navire que d'innombrables requins, montant sans doute du fond des eaux sombres, mordaient aux rames chaque fois qu'elles plongeaient dans l'eau, et ainsi accompagnaient le canot de leurs morsures. Subitement, les eaux alentour se gonflèrent lentement en formant de larges cercles, puis elles se soulevèrent rapidement comme si elles glissaient sur les flancs d'un banc de glace submergé en train de remonter rapidement à la surface. On entendit comme un grondement sous-marin, et tous les hommes de l'équipage retenaient leur respiration quand, couverte de lignes emmêlées, de harpons et de lances, une vaste forme s'élança d'un long saut oblique hors de la mer. « En avant !» cria Akab au rameur. Et les embarcations s'élancèrent à l'attaque. Mais Moby Dick semblait possédé par tous les anges déchus tombés du ciel. Oh, Akab, cria Starbuck, il n'est pas trop tard, même maintenant, le troisième jour, pour renoncer. Vois, Moby Dick ne te cherche pas, c'est toi, toi qui la cherches follement. Mais il était déjà tout près de la baleine quand le corps bandé en arrière, les bras tendus, il lança son féroce harpon avec sa plus féroce malédiction. Moby Dick se tordit de côté, roula spasmodiquement son flanc contre le flanc du canot. Trois des rameurs furent jetés à la mer. Akab trébucha sur le canot. Sa main frappa son front. « Je deviens aveugle. Est-ce la nuit ?»« La baleine. Le vaisseau !» crièrent les rameurs effrayés. À l'avant du Pequod, presque tous les marins restaient sans bouger. Ils regardaient la baleine. Elle était le jugement dernier. Et la vengeance de la foudre et la malice éternelle. Un homme mortel ne pouvait rien contre elle. Le solide bélier blanc de son front frappa l'avant par tribord, renversant homme, planche et mât. Plongeant sous le vaisseau qui s'enfonçait, la baleine fila en frémissant le long de la quille. Mais à quelques mètres du canot d'Akab, elle s'immobilisa. « Je roule vers toi, ô baleine, massacre de tout, mais qui ne gagne rien. Jusqu'au bout, je lutterai avec toi. Du cœur de l'enfer, je te frapperai. Dans la haine, je te crache mon dernier souffle. Que je sois écartelé en te chassant. Tiens, je te donne ma lance. » Le harpon fut lancé. La baleine frappée s'élança et Akab fut emporté du canot avant même que l'équipage s'en aperçût. L'instant d'après, à travers les vagues, les marins encore vivants virent le long fantôme du vaisseau s'évanouissant comme dans les brouillards de la fée Morgane. Ces trois mâts seuls hors de l'eau, tandis que cloués par leur entêtement ou par une sorte de fidélité à leur perchoir hautain, les harponneurs païens gardaient leur vigie dans l'engloutissement même. Des cercles concentriques saisirent le canot solitaire et tout son équipage. Chaque rame qui flottait, chaque lance, animée et inanimée, se mirent à tourner en une ronde qui emporta hors de vue la plus petite épave du Pequod. Maintenant, les petits oiseaux voltaient en criant sur le gouffre encore ouvert. Une écume blanche et morne battit contre ses roides parois. Puis tout s'égalisa. Et le grand linceul de la mer se mit à rouler comme il roulait il y a 5000 ans. Le drame est achevé. Quel est donc celui qui s'avance maintenant? Moi, parce qu'il y eut un survivant au naufrage. Soutenu par le cercueil de Kikwet pendant un jour et une nuit entière, je flottais sur l'océan qui grondait doucement comme un chant funèbre. Le second jour, une voile se dressa, s'approcha et me repêcha enfin. C'était le vaisseau Rachel. Retournant en arrière pour chercher toujours ses enfants perdus, elle ne recueillit qu'un autre orphelin.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission réalisée par Xavier Pestugia avec Philippe Brodin à la technique a été préparée par Estelle Gap, Laura El Maki et Irène Menahem. Bonne soirée, à la semaine prochaine.